Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 5 Esfand, 1400 du calendrier iranien, 24 février 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les actes des Américains doivent suivre leurs mots, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La politique de l'Iran vise à développer la coopération avec les pays amis, en particulier Oman, a déclaré le président Raisi. Au Liban, le Hezbollah met en garde Israël contre une nouvelle guerre. Et Moscou annonce que rien ne menace la population civile lors de ses opérations militaires en Ukraine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré au ministre des Affaires étrangères omanais en visite en Iran que Téhéran cherchait à coopérer avec des pays amis, en particulier le sultanat d'Oman. Lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères omanais, le président Raisi a déclaré que notre volonté et notre politique sont de développer la coopération avec les pays amis. Le président iranien a remercié le sultan d'Oman pour son invitation à se rendre à Mascate et a déclaré que sans aucun doute, ces interactions pourraient être efficaces afin de renforcer les relations entre les deux pays et résoudre les problèmes régionaux et internationaux. Le président Raisi a déclaré « Nos relations avec Oman sont à un bon niveau » mais dans le domaine économique et commercial, il y a encore de la place pour élargir davantage les relations. Le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré « Votre voyage à Oman sera un voyage historique et servira les objectifs des deux nations. Nous soutiendrons toujours votre approche pragmatique dans tout ce que vous faites et nous travaillerons certainement à opérationnaliser votre approche pour élargir les relations bilatérales. » Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, met Israël en garde contre une nouvelle guerre contre le Liban, ajoutant que les forces de la résistance sont parfaitement préparées à toute attaque. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al-Manar, Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que le régime israélien est sur le déclin et sur la voie de la disparition. Il a déclaré que la disparition du régime sioniste n'est qu'une question de temps, suggérant que le terme « régime temporaire » soit utilisé pour Israël. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que le Hezbollah rechercherait la justice et la paix et défendrait le peuple libanais et sa liberté. Alors qu'une opération militaire russe est en cours dans le Donbass, Moscou a affirmé que seuls les sites militaires étaient visés par ces frappes. Le ministère russe de la Défense a assuré que les frappes sont effectuées avec des armes de haute précision visant exclusivement les infrastructures militaires et ne menacent donc pas la population civile ukrainienne. Le ministère a également assuré que rien ne menaçait la population civile en précisant ne pas avoir effectué de frappes sur les villes ukrainiennes. Lors de son discours télévisé prononcé dans la matinée de ce 24 février, annonçant le début des opérations dans le Donbass, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie n'avait aucun projet d'occupation de territoire ukrainien. Selon le chef d'État russe, l'opération militaire vise à protéger les républiques autoproclamées dont la Russie a reconnu la souveraineté ainsi qu'à démilitariser l'Ukraine. À la suite de l'opération militaire russe entamée dans la nuit du 23 au 24 février contre plusieurs cibles militaires ukrainiennes, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé l'activation des plans de défense de l'Alliance. Le secrétaire général de l'OTAN a annoncé la tenue le 25 février d'un sommet de l'organisation militaire ainsi que l'activation de ses plans de défense. Dans un communiqué publié en fin de matinée, l'OTAN a appelé la Russie à respecter pleinement le droit humanitaire international et à permettre un accès et une assistance humanitaire sûre et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé les États-Unis à mettre fin à la contradiction qui existe entre les paroles et les actions des États-Unis concernant l'Iran. S'adressant aux journalistes de la chaîne Euronews dans une interview, le chef de la diplomatie iranienne a noté qu'un décalage existait entre les propos des Américains d'envoyer un message de bonne volonté d'une part et imposer simultanément de nouvelles sanctions contre plusieurs personnes physiques et morales iraniennes le même jour. Par conséquent, nous préférons évaluer les actes des Américains et nous méfier de leurs paroles, a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a également déclaré que les États-Unis n'avaient pas réussi à isoler la République islamique d'Iran par des sanctions, notant que malgré tous les efforts qui ont eu lieu sous la direction de Donald Trump aux États-Unis et sa campagne de pression maximale qui a été appliquée contre la République islamique d'Iran, rien de tel que l'isolement de l'Iran ne pourrait se produire. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que lors de la conférence de Munich, il avait informé Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, qui coordonne les pourparlers de Vienne, de la présence sérieuse de la République islamique d'Iran dans la ville autrichienne dans le but de parvenir à un bon accord. En faisant référence au négociateur en chef iranien Ali Borelikhani, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a déclaré « Mon collègue et moi, nous avons clairement dit au ministre des Affaires étrangères des trois pays européens que le moment était venu pour l'initiative de la partie occidentale, alors que Téhéran a montré son initiative et flexibilité suffisante. Cependant, si l'autre partie ne fait pas preuve de la flexibilité et de l'initiative nécessaire, elle finira sans aucun doute par être responsable de l'échec éventuel des pourparlers, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'administration du président américain Joe Biden a allégué un intérêt à ramener Washington à l'accord de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. Son prédécesseur, Donald Trump, avait abandonné l'accord en 2018 et a rendu les sanctions dans le cadre de la soi-disant campagne de pression maximale. Pourtant, la Maison-Blanche de Joe Biden s'est non seulement arrêtée avant toute action qui pourrait refléter sa manifestation d'intérêt, mais elle a également renforcé le régime des sanctions contre la République islamique d'Iran. Depuis l'année dernière, la capitale autrichienne, Vienne, a accueilli 8 séries de pourparlers visant à supprimer potentiellement les sanctions américaines illégales et inhumaines contre Téhéran. L'équipe des négociateurs iraniens a proposé de nombreuses initiatives qui ont rapproché la perspective d'un accord. Les États-Unis et leurs alliés, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont cependant refusé de saisir ces occasions. Hossein Amir Abdullahian a répété l'affirmation de l'Iran selon laquelle la balle est dans le camp des Occidentaux pour faire ou défaire les pourparlers. Nous estimons que si la partie occidentale cherchait à adopter une vision réaliste de ce qui se passe à la table des négociations à Vienne, nous serions en mesure d'atteindre le stade d'un accord final en quelques heures. Le chef de la diplomatie iranienne a également réaffirmé l'objection de l'Iran à s'engager dans des négociations justes pour le plaisir de négocier. Nous ne sommes pas à Vienne pour négocier, seulement pour le plaisir de négocier, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Notre objectif est plutôt d'arriver à un bon accord, a-t-il ajouté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait aborder de ce qui se passe actuellement entre la Russie, l'Occident et l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine se dit prêt, il l'a dit aujourd'hui, mercredi, prêt au dialogue, mais il insiste en fait sur le fait que les intérêts russes sont non négociables. Notre pays est toujours ouvert à trouver des solutions prédiplomatiques aux problèmes les plus complexes, a déclaré Vladimir Poutine. Cependant, a-t-il insisté, les intérêts et la sécurité de nos citoyens, pour nous, sont non négociable, réclamant en fait aux Occidentaux des garanties telles que la promesse que l'Ukraine n'intégrera jamais l'OTAN et la fin du renforcement de l'OTAN aux frontières russes. Dans le même temps, c'était mardi, le président américain Joe Biden avait dénoncé ce qu'il avait appelé en fait une invasion russe de l'Ukraine. Et toujours dans le cadre de ces événements, la Chambre haute du Parlement russe a approuvé le 22 février au soir la demande du président russe Vladimir Poutine de déployer des militaires russes dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que le président russe avait en fait reconnu dans le cadre d'un décret présidentiel, si vous voulez, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui avait ordonné en fait à l'armée russe de garantir la sécurité dans ces deux République. Et toujours sur ce sujet, la Syrie a en fait soutenu cette décision du président russe, Vladimir Poutine. L'Iran a dénoncé en fait les interventions de l'OTAN dans la région qui compliquent, selon Téhéran, la situation. Et le président vénézuélien Nicolas Maduro a en fait soutenu pleinement cette décision de son homologue russe, Vladimir Poutine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Rabat, un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Mikhail Egorov. M. Egorov, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Heureux de vous retrouver. Je salue mon interlocuteur ainsi que tous les téléspectateurs de Presse TV.
Et l'autre interlocuteur, votre interlocuteur pour l'émission d'aujourd'hui, c'est un économiste, un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui était avec moi pour cette émission par Skype depuis Bruxelles. Il s'agit de Xavier Dupré. Monsieur Dupré, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je salue également mon interlocuteur et également tous les téléspectateurs de French Press TV.
Merci beaucoup, Monsieur Dupré. Je viens de lancer le sujet. Quelle analyse portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre la Russie d'une part et l'Occident et l'Ukraine d'autre part, s'il vous plaît?
Alors, je crois que concernant la relation entre la Russie et l'Ukraine, on assiste depuis des mois à une surenchère nationaliste de la part du gouvernement de Kiev. Et aujourd'hui, on voit clairement que cette posture a débouché sur une impasse. Il ne faut pas oublier non plus que durant des mois et des mois, un soutien réel et militaire des exportations d'armes notamment ont été le fait de Washington et ont contribué à déstabiliser davantage encore la relation entre l'Ukraine et la Russie. Il y a donc quelque part, si vous voulez, de la part de Washington, un rôle, une posture de pompier pyromane qui doit être mise en évidence. Évidemment, de par leur dépendance structurelle à l'égard de l'OTAN, les pays d'Europe occidentale ont fini par embrayer sur les desiderata, revendications et pressions de Washington. À l'heure où nous en sommes aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que cette proximité de nos élites avec les États-Unis est en train de jouer contre les intérêts de l'économie européenne et contre le bien-être des populations européennes. Je rappellerai quand même que 40% des importations de gaz de l'Union européenne ont pour origine le producteur russe, la Russie, Gazprom. Donc vraiment, là, on est sur une voie qui est très négative pour nos économies et pour nos populations. Une volée de sanctions vient de tomber aujourd'hui. On sent bien que nos dirigeants ne veulent pas spécialement sortir de l'arme lourde. On s'en rend bien compte. Nous avons besoin de la Russie pour nous développer, pour croître économiquement et sortir du marasme qu'a été la crise Covid. Je vais vous donner un seul exemple. C'est que les États-Unis ont insisté au cours des dernières semaines pour que dans les sanctions figure la sortie des banques russes du système SWIFT, nous autres Européens, nous n'avons jamais, jamais accepté, et il ne fallait surtout pas céder à ce type de pression, pour une simple et bonne raison, c'est que nous aurions été incapables de payer le gaz dont nous avons besoin auprès des banques russes. De surcroît, je crois que les sanctions qui arrivent aujourd'hui marquent plutôt une forme d'impuissance de la part des Occidentaux. Vous savez, pour qu'un pays soit victime véritablement de pression financière, il faut que ses réserves soient tout à fait insuffisantes et qu'il ait vraiment besoin d'être présent sur les marchés de capitaux internationaux. Ce n'est pas le cas de la Russie aujourd'hui. Idéalement, un pays doit posséder entre 3 et 6 mois d'importation, des réserves qui équivalent à 3 à 6 mois d'importation. La Russie possède des réserves qui sont l'équivalent, c'était à la fin de l'année 2021, de 18 mois d'importation. Donc nous voyons bien que finalement nous sommes plutôt dans l'adoption de postures, mais en réalité nous autres Européens en Europe occidentale, eh bien, nous avons intérêt à échanger avec la Russie et nous ne devons surtout pas céder, nous n'avons pas les moyens de toute façon d'appliquer collectivement un programme de sanctions maximales contre la Russie. Donc aujourd'hui on peut quand même dire ceci, c'est que plus que jamais, quand bien même il y a les sanctions, quand bien même il y a les tensions, elles sont réelles, plus que jamais la Russie est au cœur des relations européennes. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Nous avons besoin de la Russie, nous avons besoin de gaz, nous avons besoin de pétrole, et nous n'allons jamais, jamais sortir les banques russes du système SWIFT. Jamais.
Monsieur Egorov, est-ce de votre avis également, l'Europe a fortement besoin de la Russie, l'Europe qui s'alimente, si vous voulez, principalement en énergie auprès de la Russie, l'Europe et son économie ont besoin de la Russie, selon M. Dupré. Est-ce de votre avis également, M. Egorov, première question. Et que pensez-vous de ce qui se passe, si vous voulez, entre l'Occident et la Russie autour de l'Ukraine, s'il vous plaît?
Oui, alors en ce qui concerne ce qui a été dit par M. Dupré, bien sûr, j'adhère complètement à ce qu'il a dit. Il est tout à fait évident aujourd'hui que le seul et le principal intéressé de créer une situation d'insécurité, d'instabilité en Europe, c'est Washington. Pour cela, il y a des raisons aussi bien géopolitiques, stratégiques, parce que Washington observe avec vive inquiétude sa chute d'influence au niveau international. Il comprend parfaitement que la période hégémonique est terminée. Et donc l'objectif aujourd'hui pour Washington, c'est d'asseoir sa domination sur l'espace européen. Et à cet effet, au-delà des raisons géopolitiques, stratégiques, militaro-sécuritaires, qui sont tout à fait, qui font partie du package, si on peut dire ainsi, mais il y a aussi bien sûr des raisons géoéconomiques, parce que on peut faire référence aux arguments qui ont été avancés par M. Dupret, notamment en ce qui concerne l'interaction dans le domaine gazier entre l'Europe, l'Union européenne en tout cas, et la Russie. Et il faut aussi parler d'un autre point qui est important, c'est que pour la seule année dernière, selon les chiffres officiels qui ont été annoncés il n'y a pas longtemps, les échanges économico-commerciaux entre l'Union européenne et la Russie, sachant que l'Union européenne et la Russie vivent sous sanctions réciproques depuis 2014, donc c'est des sanctions qui ont été initiées par les Occidentaux, la Russie a répondu par des contre-sanctions, et malgré donc ces sanctions réciproques, qui sont véritablement un obstacle pour le développement des échanges, malgré cela, les deux parties ont eu des échanges pour l'équivalent de 220, pour plus de 220 milliards d'équivalents de dollars. C'est un chiffre très sérieux. Parallèlement à cela, il ne faut pas oublier une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le principal partenaire économico-commercial, aussi bien de la première économie de l'Union européenne qu'est l'Allemagne, et plus généralement de toute l'Union européenne, c'est la République populaire de Chine, dont les échanges avoisinent l'équivalent de 600 milliards de dollars. Et voilà, la Chine a dépassé les États-Unis comme principal partenaire économico-commercial de l'Union européenne. Tout ça, c'est des raisons supplémentaires à l'hystérie washingtonienne, qui voit ça avec vive inquiétude et qui comprend qu'à terme, cela pourra le mettre dans une sorte d'isolation, parce qu'il voit parfaitement que même si l'establishment politique européiste bruxellois et affiliés aux intérêts états-uniens, ils voient bien que du côté des entreprises, des opérateurs économiques, de l'entrepreneuriat européen, il y a une volonté véritable de développer les relations et de maintenir et de développer les relations avec la Russie et la Chine. Et bien sûr, ça inquiète vivement Washington parce qu'effectivement, c'est une perspective qui, à terme, pas dans l'immédiat, mais à terme, pourra faire des États-Unis tout simplement une puissance régionale de moyenne envergure. C'est ça leur inquiétude aussi. Donc les raisons géoéconomiques sont parfaitement là. Maintenant, en ce qui concerne votre deuxième partie de la question, alors écoutez, c'est très simple. La Russie a été très claire sur le fait, et j'avais prédit ça et j'avais répondu à cela déjà plusieurs mois, j'avais dit lorsque cette hystérie promue par Washington avait commencé quant à la prétendue invasion de l'Ukraine par la Russie, j'avais dit que la seule solution sera pour les régimes occidentaux de mettre la pression sur le régime de Kiev pour qu'il applique à la lettre les accords de Minsk, à défaut de quoi la Russie prendra ses responsabilités. Alors, mais comme Washington, en premier lieu, a tout fait pour mettre la pression sur Kiev pour qu'au contraire, il crée des provocations militaires et agresse de nouveau le Donbass, parce qu'on a vu et on l'a suivi au cours des dernières semaines et des derniers jours, il y avait de nouveau des attaques qui ont été lancées contre le Donbass et notamment contre les civils, les installations civiles. Alors la Russie, finalement, au vu de tous les défis qui existent dans la relation avec l'Occident, la Russie a pris ses responsabilités et a reconnu officiellement l'indépendance des républiques populaires du Donbass, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Point à la ligne. La Russie a pris ses responsabilités. Je peux vous dire en tant que Russe que cette décision a été largement soutenue à l'échelle nationale en Russie, au niveau des citoyens de toutes les parties de la Russie, des différentes couches sociales, en grande majorité. Ce qui fait que voilà, c'est une question qui est définitivement réglée. Maintenant, la Russie, malgré cela, garde toujours la porte, maintient une porte pour la diplomatie, pour le dialogue, pour éviter qu'il y ait une détérioration sécuritaire à venir. Mais aujourd'hui, effectivement, la balle est dans le camp occidental. Si l'Occident continuera à mettre de l'huile sur le feu pour pousser Kiev à faire des gestes agressifs à l'encontre du Donbass, il n'est pas exclu que la Russie prendra d'autres responsabilités de cadre sécuritaire. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de génocide dans le Donbass. La Russie a pris ses responsabilités. Elle est la garante en termes de sécurité pour ces deux républiques désormais officiellement reconnues. C'est fini. Et donc, tout le monde comprend parfaitement que ni l'Occident, et encore moins le régime de Kiev, qui de toute façon n'a aucune dose d'indépendance, ne pourront rien pour mettre en réalisation leur scénario, à savoir écraser le Donbass et y pratiquer une campagne d'épuration ethnique. Cela n'aura pas lieu. Aujourd'hui, c'est définitivement clair.
Monsieur Dupré, l'objectif souhaité par Washington est-il, d'après vous, de faire entraîner Européens et Russes dans une guerre autour de l'Ukraine ?
Je ne suis pas certain qu'on soit aux portes d'une troisième guerre mondiale, je ne le crois pas. Mais ce qui est clair, c'est que Washington veut aujourd'hui de plus en plus des gages de la part des Occidentaux, de l'Europe occidentale. Nous devons devenir plus atlantistes que jamais. Parce que les États-Unis sont cette puissance blessée, ne sont plus la puissance hégémonique qu'ils ont été au sortir de la guerre froide au début des années 90. Et donc aujourd'hui, ils nous demandent à nous un lien qui n'est même plus un lien d'alliance, mais un lien de vassalité. Alors je crois profondément que l'Ukraine sert vraiment de test pour, quelque part, resserrer les rangs de nos élites autour de Washington. Et comme le mentionnait M. Egorov, cette politique se heurte en réalité à une contradiction. Il y a effectivement, du côté des élites politiques, une allégeance certaine à l'égard de l'OTAN. Mais nos élites économiques ne voient pas les choses de la même manière. Je lisais aujourd'hui la presse économique belge qui, finalement, laisse parler le patronat. Et le patronat s'inquiète terriblement des répercussions sur le prix du gaz des conflits avec l'Ukraine. Donc non seulement nous voulons échanger, nos élites économiques veulent échanger avec la Russie, mais ils ont un intérêt réel et profond, puisque avec des prix énergétiques comme ceux que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité d'exportation de l'Europe occidentale et de toute une série de petits pays d'Europe occidentale. Nous ne sommes pas une très grande région dans le monde. de par la superficie. Donc pour toute une série de petits pays, c'est notre capacité à développer notre production et à exporter dans le monde entier qui est mise en cause aujourd'hui. Donc je pense qu'à terme, cette politique ressemble beaucoup plus à une espèce de manifestation de volonté de puissance de la part d'un acteur qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Et à terme, effectivement, le lien entre Washington et un certain nombre de capitales en Europe occidentale risque d'être davantage distendu que par le passé. Lorsque je parle d'Europe occidentale, je parle bien entendu de l'Union européenne. J'exclus le Royaume-Uni qui, pour l'instant, a des positions plus qu'atlantistes. On peut même dire qu'aujourd'hui, à entendre Boris Johnson, le Royaume-Uni est devenu le 51e État de l'Union. Mais ce ne sera pas le cas du reste de l'Europe occidentale. Les milieux industriels allemands, par exemple, sont très, très inquiets des évolutions du coût de l'énergie. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, l'inflation dans un certain nombre de pays, et cette inflation est exclusivement tirée par les prix de l'énergie, nous avons un niveau d'inflation qui n'a plus été connu et enregistré statistiquement depuis le début des années 80. Évidemment, cela met en péril la compétitivité de nos entreprises parce que les salaires devront à un moment donné refléter cette augmentation des coûts de la vie. Et donc forcément, notre compétitivité sur la base des coûts salariaux va être terriblement handicapée. Donc vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on a affaire à une volonté de la part de Washington d'arrimer de force l'Europe occidentale au giron de l'OTAN. Et je crains malheureusement, je prédis très modestement à mon échelle que cette volonté va se heurter en réalité à la position, à la place réelle, à la puissance réelle des États-Unis dans le jeu des relations internationales, une puissance qui n'est plus celle qu'elle détenait, qu'elle possédait il y a une trentaine d'années. Nos élites économiques ont intérêt à changer avec la Russie, et ça ne va pas changer. De surcroît, lorsque l'on voit aujourd'hui comment la diplomatie chinoise est en train clairement de prendre position en pointant les responsabilités de Washington dans cette montée des tensions, là encore, nos élites économiques se rendent bien compte que nous ne pourrons pas continuer à adopter un langage va-t-en-guerre, alors même que Merci. La Chine devient notre partenaire de prédilection pour l'avenir.
Monsieur Egorov, vous l'avez dit tout à l'heure que voilà, la balle est désormais dans le camp occidental, et vous l'avez dit que voilà, si les réclamations, si vous voulez, de Poutine ne sont pas satisfaites, la Russie de Vladimir Poutine est prête à aller de plus loin, d'autant plus que M. Egorov, comme l'a dit clairement Poutine, président russe, il s'agit là de la sécurité de la Russie et de, si vous voulez, de la sécurité des citoyens russes.
Oui, absolument, bien sûr, bien sûr. La Russie accorde une énorme attention à sa sécurité intérieure, mais sans oublier bien sûr ses alliés régionaux et internationaux, c'est tout à fait évident. Et au vu de ce que nous avons observé au cours de toutes ces années, et à commencer à partir des années 90, à la période à laquelle en Russie on avait un gouvernement libéral tourné vers l'Occident, voilà, c'était la période marasmatique, si on peut dire ainsi, de l'histoire contemporaine russe. On a vu que même en cette période où, soi-disant, on était en relation entre guillemets amicale, on a parfaitement vu tous les coups de poignard dans le dos que l'Occident nous a fait et toutes les promesses qui n'ont pas été tenues, notamment le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Tout cela a été oublié, toutes ces paroles en l'air n'ont pas été respectées. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement et ça ne concerne pas seulement le dossier des relations entre l'Occident et la Russie, ça concerne tellement d'autres dossiers internationaux. En Iran, l'Iran sait quelque chose aussi parfaitement. Donc c'était pas surprenant. Et évidemment, à un moment, lorsqu'il y a eu le coup d'État à la sauce des révolutions de couleur à la Soros, lorsqu'une minorité violente, agressive, extrémiste a réalisé ce coup d'État avec le soutien occidental en 2014, et surtout qu'on a vu que, bien sûr, c'était un défi énorme qui a été posé à la Russie sur le plan sécuritaire, mais sans oublier un autre point, c'est-à-dire que beaucoup présentent cela comme simplement un désaccord géopolitique entre l'Occident les putschistes de l'époque à Kiev et la Russie. C'est faux. Il y a des millions de citoyens ukrainiens qui ont rejeté ce coup d'État. Et pas seulement d'ailleurs dans le Donbass. Dans d'autres régions du sud-est ukrainien, russophones, majoritairement, il y a aussi eu de la résistance. Sauf qu'elle a été écrasée dans le sang. On se rappelle de ce qui s'est passé à Odessa, lorsque des personnes ont été brûlées vives et que ça n'a ému personne. Bon, à Kiev, on n'en parle même pas parce que c'était l'initiateur, mais l'Occident aussi n'a jamais voulu parler et aborder cette tragédie. C'est une tragédie humaine. C'était déjà un génocide, ce qui s'est passé à Odessa. Sans parler des autres régions, ce qui s'est passé dans le Donbass avec les innombrables personnes tuées, des femmes, des enfants, des personnes âgées, les fosses communes, d'ailleurs, dont la Russie a envoyé les preuves aux pays occidentaux, ça n'émeut personne en Occident, en tout cas l'establishment politique occidental, en fait la sourde oreille. Donc évidemment, et depuis cette période, la Russie a définitivement pris ses responsabilités sur la scène internationale. Cela s'est traduit, bien sûr, dans le cadre de ce qu'on appelle le printemps russe, et avec les événements qu'on a connus depuis, c'est-à-dire le ralliement de la Crimée, cette victoire historique, de la justice historique, donc le ralliement de la Crimée à la Russie, les événements dans le Donbass, et puis bien sûr dans d'autres régions du monde où la présence russe aujourd'hui s'est activement développée, se fait ressentir. La Russie a compris définitivement qu'elle ne pourra plus tolérer cette arrogance de l'establishment occidental avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et effectivement, la Chine aussi aujourd'hui, au-delà d'être une superpuissance économique mondiale, la première économie mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat devant les États-Unis, aujourd'hui, elle assume pleinement aussi son rôle de grande puissance géopolitique internationale, l'une des principales puissances géopolitiques. Et ensemble, la Russie et la Chine, sans oublier d'autres pays comme l'Iran, d'autres puissances régionales, d'autres pays qui ne sont pas des puissances mais qui adhèrent au concept multipolaire du monde, aujourd'hui, nous sommes dans ce schéma du renforcement de l'ordre multipolaire international et les nostalgiques de l'unipolarité n'y pourront absolument rien. Les nostalgiques étant bien sûr l'establishment politique, pour bien le préciser, occidental. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé M. Dupré, les opérateurs économiques occidentaux et notamment européens et beaucoup de représentants des peuples européens, aujourd'hui, on le sait parfaitement, beaucoup d'entre eux adhèrent au concept multipolaire mondial et c'est ce qui fait justement la force de notre système et c'est pourquoi, d'autant plus, l'hystérie à Washington ne cesse de monter.
Monsieur Dupré, en fait, une dernière question en une seule phrase. Monsieur Egorov dit que voilà, cette décision de Poutine est soutenue à une grande échelle, si vous voulez, en Russie. Une telle décision est-elle soutenue également dans le Donbass, à Lugansk et à Donetsk?
Je vais être très bref. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Est de l'Ukraine, mais il est très clair qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes du droit international, des spécialistes de cette région du monde, démontrent clairement qu'il n'y a plus de volonté de la part de ces populations de vivre sous le même toit que le gouvernement de Kiev, et que la question de leur autodétermination doit être posée. Je rappelle à cet effet, et c'est quelque chose qui est pénible pour les élites occidentales, mais il faudra qu'elles l'entendent, lorsque nous avons reconnu le Kosovo, nous n'avons pas vraiment... nous avons démantelé la Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie, on n'y est pas spécialement allé avec le dos de la cuillère. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devrions pouvoir entendre le message des populations de l'Est ukrainienne, de l'Est de l'Ukraine, qui désirent être reconnus dans leur droit à l'autodétermination.
Merci infiniment, Xavier Dupré, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype et depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Mikhail Egorov, d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Rabat, capitale du Maroc. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants taqfiristes. Daesh est-il un symptôme d'une frustration dans des sociétés guerrières? En perdant ses chefs ou en multipliant les attentats, le groupe Daesh continue de faire parler de lui. Un article récemment publié par le site d'information Middle East Eye estime que davantage qu'un acteur puissant à vocation universelle, il s'agit surtout d'un symptôme qui touche prioritairement des sociétés guerrières en mal de légitimité étatique. Si tant est qu'il en eut un jour quelques attributs, le groupe Daesh ne ressemble plus à un État, à savoir un acteur disposant d'un territoire et administrant une population. Il a pris le chemin de son prédécesseur, Al-Qaïda. Il n'est plus qu'une franchise, une marque, voire un cri de ralliement. Certains ont beau en faire une problématique civilisationnelle ou idéologique. Daesh est avant tout le symptôme de frustrations locales, de conflits non résolus et de l'installation plus ou moins durable de sociétés guerrières que Bertrand Badi décrivait en ces termes en 2015. La tragédie actuelle, c'est que beaucoup de sociétés n'ont pour espoir de survie que la corde guerrière. La guerre devient le principal tissu social, là où ont échoué les institutions, l'État, le contrat social, la construction nationale. La guerre produit une économie qui se révèle florissante pour beaucoup d'acteurs, beaucoup d'agents. La guerre devient également un espace de mobilisation, d'identification, mais pire encore, la guerre devient une protection sociale. Certes, le terrorisme pratiqué par Daesh rappelle cette surenchère, au-delà des rapports de force, qu'évoquait Jean Baudrillard il y a 20 ans, et le fait que l'attentat de l'aéroport de Kaboul d'août 2021 soit vraisemblablement le fait d'un seul assaillant avec 173 personnes tuées, dont 13 militaires américains, l'illustre en partie, mais se focaliser sur sa singularité ne permet pas forcément de bien comprendre les contextes dans lesquels il perdure, voire s'épanouit. Sans vouloir déshumaniser les personnes concernées, l'analogie avec ce que nous vivons actuellement sur le plan sanitaire est tentante. S'agissant de Daesh, nous sommes passés d'une phase épidémique, attirant l'attention du monde, avec la prise de Mossoul et de Raqqa en 2014, à une phase endémique. Daesh s'installe comme une force clandestine, potentiellement durable, qui vient rappeler que certains conflits n'ont pas encore abouti à une solution politique satisfaisante. De ce point de vue, la mort de ses chefs successifs au nord-ouest de la Syrie, d'Abou Bakr al-Baghdadi en octobre 2019 à Abu Ibrahim al-Hashimi en ce mois de février 2022, n'est pas de nature à neutraliser ses capacités de nuisance. Entre la Syrie et l'Irak, Daesh conserve environ 10 000 combattants, ce qui lui permet de mener des attentats et des assauts, à l'instar de celui visant la prison de Hasake dans le nord-est syrien. Mais si les chefs de Daesh se font tuer au nord-ouest de la Syrie, où prospère un groupe radical armé concurrent issu d'Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, qui exerce un contrôle territorial à Idlib, tandis que ses combattants conservent une relative attractivité à l'est du pays, c'est parce que le contexte local s'y prête. Comme l'a rappelé le géographe Fabrice Palanche, qui s'est rendu dans la région en janvier, au moins deux facteurs expliquent la relative attractivité dont bénéficie encore Daesh. Des conditions économiques désastreuses et la frustration chez les populations arabes que peut causer la prédominance des forces kurdes au sein des forces démocratiques syriennes qui jouissent encore du soutien de Washington. En somme, depuis que Daesh n'est plus un phénomène territorial, depuis qu'il n'administre plus une population dans des frontières plus ou moins définies, c'est devenu un phénomène local qui bénéficie de frustrations locales. Par ailleurs, dans des sociétés devenues ou redevenues guerrières, ce soi-disant djihad est aussi une activité économique avec des pillages et des rackets qui vient pallier le désœuvrement dans lequel certaines populations sont plongées. Faut-il pour autant craindre une résurrection du fameux califat improvisé en 2014 entre la Syrie et l'Irak? Une telle hypothèse demeure peu probable. D'abord, parce qu'il ne faut pas surestimer les capacités réelles de Daesh au Levant. Hommes, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup pour réaliser des attentats, peu pour conquérir un territoire. Et les recrutements permis la marginalisation susmentionnée ne sont pas suffisants. Rappelons d'ailleurs que Daesh a commis moins d'attentats en 2021 qu'en 2020. Ensuite, parce que l'installation territoriale d'un groupe islamiste radical est difficilement concevable sans l'assentiment d'un ou de plusieurs États, notamment de la région. Daesh n'a émergé territorialement en 2014 que parce que certains États considéraient la chute du pouvoir syrien comme prioritaire. Mais en cas de départ américain, une coordination russo-turque au détriment des combattants kurdes laisserait peu de marge de manœuvre aux groupes radicaux armés. D'ailleurs, le Hayat Tahrir al-Sham ne se maintient à Idlib que parce que Moscou refuse une offensive de grande envergure sans le feu vert d'Ankara. Loin du Proche-Orient, Daesh demeure une franchise plus ou moins attractive. Une franchise susceptible de permettre de délivrer des conseils d'ordre opérationnel ici et là, mais le réseau formé par les groupes qui s'en réclament relève souvent de la magie de la revendication. L'Afrique, où les frustrations locales peuvent être nombreuses et où les États sont faibles, en moyens ou en légitimité, apparaît aujourd'hui comme le continent de prédilection de cette franchise djihadiste, mais il n'y est pas pour autant question d'administration territoriale. Il y est question d'actions revendiquées destinées à terroriser, à séduire et à recruter, d'attentats, d'assauts spectaculaires, de rackets, d'une communication abondante, bref, d'une violence organisée autour d'une marque. Enfin, le Yémen, contraint au statut de société guerrière, nous offre une illustration du caractère flou de l'étiquette Daesh. Le journaliste franco-yéménite Khaled Al-Khaled nous indique que Daesh et des groupes se réclamant de Daesh ou l'appellation elle-même attirent au même titre qu'Al-Qaïda quelques chefs tribus affaiblis. Il poursuit sur le terrorisme en général. Le pouvoir officiel lui-même, notamment le vice-président Ali Mohsen Al-Ahmar, n'hésite pas à s'appuyer sur des personnalités considérées comme terroristes par Washington. Pour le journaliste indépendant, il s'agit le plus souvent d'une étiquette infamante utilisée par les Émirats arabes unis et leurs alliés pour discréditer les adversaires radicaux, même quand les alliés en question d'Abu Dhabi sont des combattants salafistes. Le djihadisme que représente Daesh peine aujourd'hui à se distinguer par l'horreur qu'il pouvait nous inspirer au Proche-Orient comme à Paris en 2015. Quand des États affament et massacrent des civils ou vont jusqu'à dépecer les opposants, la singularité de la violence djihadiste est, hélas, de fait brouillée. Cette violence prospère quand les États sont faibles ou absents, mais elle naît souvent quand ils sont cruels.